Eh bien, avec vous ce matin, je vais poser la question, quand verrons-nous la gloire de Dieu ? Car c'est une aspiration de nos cœurs, la gloire de Dieu, voir la gloire de Dieu. On pense à la gloire de Dieu en voyant la lumière, en voyant ce qui est puissant, en voyant ce qui est qui ressemble à de l'or, à ce qui brille, la gloire, c'est cela, c'est ce qui reflète la grandeur, la puissance, la beauté, tout ce qui est donc beaucoup plus grand que nous, et ce qui est appelé à demeurer, ce qui porte l'éternité. Eh bien, cette gloire, nous y aspirons, et elle a été demandée initialement par ceux qui ont cru, et en particulier Moïse. Dans le passé, Moïse a été le premier à désirer voir la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, si nous savons ce qu'est la gloire, c'est grâce à cette demande de Moïse, puisqu'il a vu la gloire de Dieu, et lorsque il est revenu de la montagne où il avait contemplé la gloire de Dieu, eh bien, cette gloire s'est reportée sur son visage. Donc, nous pouvons prendre dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, pour nous rappeler cet épisode. À partir du verset 18, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » C'est tout un dialogue que Moïse a avec Dieu. « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face. » Car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre comme les premières et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. Moïse tailla les deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Dieu se révèle comme Moïse a désiré. Dieu se révèle et il passe devant son serviteur, et associé à la manifestation de sa gloire, il y a la proclamation de sa grâce, de sa miséricorde. Nous ne pouvons pas connaître Dieu dans sa gloire si nous ne connaissons pas sa grâce, sa miséricorde. Mais il n'empêche que Moïse a vu un aspect de la gloire de Dieu. Et à la fin du chapitre 34, verset 29, Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les deux tables du témoignage en sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Donc nous savons ce qu'est la gloire de Dieu à travers ce rayonnement. Nous savons que la gloire de Dieu, c'est un rayonnement. Et ce rayonnement, Moïse l'a porté sur son propre visage. Et nous nous attendons à être nous-mêmes transportés dans la gloire de Dieu et à porter sur nous cette gloire, à rayonner nous aussi de cette gloire selon les promesses qui nous sont faites et que nous avons vu aussi se manifester dans l'Évangile, puisque la gloire s'est manifestée sur la personne de Jésus de façon encore plus puissante que sur le visage de Moïse, puisque nous voyons au chapitre 17 de Matthieu. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre la nuée ses paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. C'est donc la présence même de Dieu à travers cette nuée, mais cette nuée qui a été précédée par la transfiguration de Jésus. Jésus a été transfiguré. Il n'a pas seulement reçu la manifestation de la gloire de Dieu sur lui, comme Moïse. Il a, de sa personne est émanée cette gloire, qu'il a totalement donc transfiguré son visage comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Eh bien, cette gloire que Moïse a contemplée, qu'il a portée sur lui, cette gloire qui remplissait totalement le Seigneur Jésus-Christ, c'est cette gloire que nous attendons, que nous désirons, qui est devant nous, qui nous est promise dans l'avenir, puisque, bien sûr, il est promis, le Seigneur lui-même annonce qu'il va paraître dans sa gloire, Matthieu donc 24, verset 30. Hein. C'est bien une manifestation de gloire qui se manifestera donc lorsque Jésus reviendra, hein, puisque alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Mais non seulement nous verrons la gloire de Dieu, mais nous serons nous-mêmes transformés et transportés dans cette gloire, hein, comme nous pouvons le lire dans plusieurs passages, mais je vous prends seulement Colossiens chapitre 3, verset 4. Donc, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et puis, Hébreux, chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Nous sommes promis à cette gloire. Nous allons paraître avec Jésus dans la gloire de Dieu à cause de la totale purification de nos personnes par son offrande à la croix du calvaire. Donc il y a eu ces manifestations passées de la gloire, il y a cette attente de la gloire à venir. L'apôtre Paul dit que aux Colossiens, toujours donc au chapitre 1 verset 27, Dieu a voulu faire connaître à tous les saints la richesse, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc nous sommes dans l'espérance de la gloire, et au plus nous méditons et que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, eh bien déjà maintenant nous pouvons expérimenter, nous pouvons goûter à cette manifestation de gloire. Dans l'épître aux Éphésiens, donc chapitre 1, verset 17 à 18. Donc je ne cesse de prier pour vous, de rendre grâce et de prier pour vous, dit l'apôtre, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est au plus nous serons dans la révélation du Saint-Esprit que nous connaîtrons par avance et que nous goûterons déjà maintenant à la gloire de cet héritage qui nous est réservé. Alors, voilà, nous, dans la communion du Seigneur et dans des moments de prière et de méditation, nous pouvons vraiment déjà, on peut dire, nous approcher de cette gloire et nous approprier l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et proclamer donc la gloire, mais pas seulement la gloire de son rayonnement, pas seulement la gloire que nous vivrons auprès de lui, mais la gloire de ce qu'il accomplit en notre faveur dès aujourd'hui. Dans le... Donc... Éphésiens, toujours, donc chapitre 1 au verset 5 et 6. Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. C'est notre vocation de comprendre que la gloire de Dieu s'est manifestée à travers sa grâce et nous sauve Donc, par la, voilà, la faveur imméritée que le Seigneur nous a accordée, que Dieu fait une œuvre de salut envers nous. Et donc, nous, ce que nous célébrons en premier lieu, c'est la gloire de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et nous approprions vraiment l'œuvre du Seigneur, et comme dit l'apôtre, nous nous glorifions dans le Seigneur Jésus-Christ et non pas dans nos mérites personnels. C'est à cela que consiste maintenant notre glorification du Seigneur et notre recherche de la gloire de Dieu. Nous cherchons les manifestations de la grâce de Dieu. Et lorsque le Seigneur nous fait grâce, alors, eh bien, nous savons que sa gloire est à l'œuvre dans nos vies et qu'il est en train de nous conduire à cette gloire parfaite que nous connaîtrons dans sa présence. Mais aujourd'hui, mis à part des manifestations exceptionnelles, comme par exemple l'apôtre Paul qui a pu voir le Seigneur, l'apôtre Étienne qui avant de rejoindre le Seigneur dans sa gloire, ben, l'a vu, a vu les cieux ouverts et a vu la gloire de Christ. Mais la meilleure façon, on peut dire, de rechercher et de connaître et de voir la gloire de Dieu, c'est de voir la manifestation, les manifestations de sa grâce dans nos vies. Lorsque nous obtenons des exaucements de prières qui renforcent notre position glorieuse en Christ, eh bien, à ce moment-là, nous connaissons une façon de la gloire du Seigneur. Je vous lis encore dans Philippiens, chapitre 1, versets 25 et 26. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Parce que ces chrétiens auront participé à ce retour de l'apôtre par leur prière et qu'ils sauront que Jésus-Christ est à l'œuvre en leur faveur au milieu d'eux, et ils pourront se glorifier d'avoir mis leur confiance en lui. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 14, nous lisons que l'apôtre, verset 13, nous écrivons pas autre chose que vous, ce que vous lisez et vous-même le reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus-Christ. Les relations chrétiennes, la façon dont les enfants de Dieu sont en relation les uns avec les autres, prient les uns pour les autres, se gagnent les uns les autres à l'obéissance du Seigneur. Tout cela, ça participe à la progression dans la gloire de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 20. Verset 19 et 20. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Lorsque nous pouvons combattre pour quelqu'un, que nous pouvons l'amener à l'obéissance au Seigneur, l'amener à la conversion, l'amener à un progrès dans la foi, eh bien, nous contribuons à, on peut dire, nous progressons dans la gloire de Dieu. Et le Seigneur nous bénit et nous prépare donc une réunion avec lui, glorieuse, avec ceux que nous aurons, dont nous aurons fait bénéficier de sa grâce. Vous êtes notre gloire, vous êtes notre couronne de gloire, dit l'apôtre au sujet des Thessaloniciens qu'il a amenés à la foi, qu'il a entretenus, dont il a pris soin dans la foi, qu'il a enseigné. Eh bien, ceux-là seront leur couronne de gloire. Et chacun d'entre nous, nous aurons aussi notre couronne de gloire en fonction de ceux que nous aurons bénis au nom du Seigneur Jésus par notre engagement envers eux, par notre patience envers eux, par notre amour, par notre esprit de pardon, de grâce. Eh bien, le Seigneur nous donnera aussi qu'il soit notre couronne de gloire. Nous augmenterons, on peut dire, notre gloire par la consécration que nous avons les uns envers les autres. La gloire est donc dans la foi que nous manifestons. Et cette foi qui nous conduit même à regarder certaines épreuves comme glorieuses en elles-mêmes. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, donc chapitre 4, verset 14, le dit de cette façon: si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Tous les chrétiens qui actuellement sont persécutés dans le nom du Seigneur, et ils sont nombreux dans le monde, donc l'association Portes Ouvertes a fait paraître le nouvel index de persécution et on voit qu'il y a une inflation de la persécution contre les chrétiens dans le monde, eh bien c'est la preuve qu'ils ont en eux l'Esprit de gloire. C'est donc ce que le Seigneur dit à travers son serviteur: vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc certaines épreuves sont déjà la manifestation que nous sommes dans la gloire de Dieu, les persécutions en particulier. Et puis même d'autres sortes d'épreuves, des souffrances qui provoquent en nous une attente de la gloire à venir. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, verset 18, j'estime que, alors je prends verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a donc une attente de la gloire à travers les souffrances du temps présent. Et pas seulement les souffrances dues à la persécution ou à diverses épreuves, tout simplement la condition humaine, la condition naturelle, la faiblesse de la chair, donc, sont comme une préparation à la gloire pour l'apôtre Paul. Il le dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc vous voyez que pour l'apôtre, même les afflictions du temps présent, parce qu'en fait, il est en train de parler là de la condition humaine, du fait d'être dans un corps de faiblesse. Les afflictions du temps présent, lorsqu'elles sont vécues dans la foi et dans l'attente de ce qui est du Seigneur, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La gloire de Dieu s'est manifestée lors de la résurrection de Lazare, non pas en ce que Lazare est sorti du tombeau rayonnant de lumière, mais simplement par le fait que Lazare a retrouvé la vie. Jésus a rendu la vie à celui qui était mort. Et il avait dit à Marthe, hein, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Donc, la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie nouvelle qui a été donnée à Lazare. Et nous pouvons dire que chaque intervention de Dieu dans notre vie qui nous rétablit dans la santé, dans la force morale, dans la direction du Seigneur alors que nous étions égarés, eh bien tout cela sont des manifestations de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la gloire de la grâce de Dieu, et c'est dans les manifestations de cette grâce au milieu de nous que nous devons chercher le plus sûrement à voir la gloire de Dieu. Le Seigneur peut accorder des miracles, des délivrances spectaculaires, mais il ne le fera pas de toute façon en dehors de la prédication du pardon des péchés et de sa grâce et de la repentance. Mais quand bien même il n'y aurait pas toutes des manifestations vraiment particulières de la puissance de Dieu, si à la fin de cette année nous avions notre salle ici où il y a quand même pas mal de chaises vides, notre salle entièrement rempli, non pas avec des apports, par exemple, d'un culte en commun. J'espère que la semaine prochaine, la salle sera bien remplie avec les frères et sœurs qui vont nous rejoindre. Mais si, à la fin de cette année, et demandons-le à Dieu, attendons-nous à cela et préparons-nous intérieurement à voir cette manifestation de la gloire de Dieu. Car si à la fin de cette année, le Seigneur avait convaincu de péché des nouvelles âmes, des personnes que nous ne connaissons même pas et qui nous fait rencontrer et qui découvrent l'Évangile, qui se repentent et qui sont jointes à l'Assemblée. Ou des anciens qui auraient délaissé la vie de l'Église et qui auront été ramenés. Ou des amis que nous connaissons déjà et qui auront été convaincus par une œuvre particulière du Saint-Esprit, ou des frères et sœurs qui sont dans la faiblesse, qui participent à la vie de l'Assemblée de façon, on peut dire, plus ou moins régulière, plus ou moins boiteuse, et qui seraient devenus totalement engagés. Est-ce que nous n'aurions pas vu la gloire, la manifestation de la gloire de Dieu, lorsque le Seigneur ajoute à son Église, lorsqu'il fait grâce pour nos offenses, lorsqu'il convainc de péché, de justice, de jugement, eh bien, alors, c'est une manifestation de sa gloire. Et en étant prêt à cela, eh bien, le Seigneur pourra aussi donner des choses qui sont plus surnaturelles, comme des visions, comme des révélations, comme des miracles. Oui, effectivement, nous pouvons aussi nous attendre à ces manifestations de gloire là. Mais combien il serait déjà merveilleux parce que nous l'avons demandé et parce que nous l'avons attendu, parce que nous avons cru, parce que nous sommes glorifiés de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, chacun pour notre part, en étant renouvelés dans l'esprit de grâce, eh bien, combien il serait merveilleux de voir cette manifestation de la grâce de Dieu à travers un peuple qui est là, rassemblé pour honorer et glorifier le Seigneur. Alors, je le dis très sérieusement, c'est pas une pensée simplement comme ça que je lance. Vraiment, rendez-vous au mois de décembre. Rendez-vous au mois de décembre avec cette salle dans laquelle le Seigneur a rassemblé son Église. Et que vraiment, là, nous puissions dire « Oui, nous avons vu la manifestation de la gloire de Dieu, parce que sa grâce aura convaincu, sa grâce aura agi, sa grâce aura rejoint les personnes là où cela semblait impossible. » Amen. Vous êtes d'accord avec ce programme ?